En parlant à Sylvain Leduc ce matin, comme on dit au hockey, on va revenir au jeu de base pour essayer de comprendre la situation. Bonjour, M. Leduc.
Bonjour, M. Saint-Pierre.
Merci de nous parler ce matin. On va essayer de parler de ça simplement, clairement, pour que les gens qui nous écoutent comprennent. Il sera question, bien sûr, dans l'entrevue de coronavirus. Commençons par l'état de la situation. Bon, est-ce que présentement, là, sur le territoire qui est couvert par le 6 Bas-Saint-Laurent, il y a ne serait-ce qu'un cas sous observation?
En ce moment, la politique qui nous est demandée de la part du ministère de la Santé, c'est de ne pas confirmer ou infirmer combien il pourrait y avoir de cas sous investigation, parce que ça pourrait brimer là, la confidentialité des sources. Ce que je peux vous dire, c'est que présentement au Québec, on a 2 cas qui ont été confirmés. Et un peu partout dans les différentes régions du Québec, il y a des gens qui voyagent. Il y a des gens qui voyagent pour le travail, il y a des gens qui voyagent pour le tourisme et qui reviennent. Alors, des fois, ils ont visité des pays qui sont touchés par le coronavirus et on est obligé de faire une investigation. Alors, ouais. Ça peut survenir dans chacune des régions du Québec, ouais. Vous comprendrez.
Mais M. Leduc, pourquoi il y a une espèce de deux poids, deux mesures côté information quand on vous parle à vous, puis quand on écoute les nouvelles, que ce soit à Radio-Canada, TVA ou ailleurs, alors qu'on est très bien capable de cibler, on est quasiment capable de dire l'adresse de la personne, puis vous me dites que pour une raison, là... Ici, au Bas-Saint-Laurent, on ne peut pas dire s'il y a même un cas sous étude?
En principe, aucune des régions du Québec n'a l'autorisation de révéler les cas sous étude parce que on va vous révéler si jamais il y a des cas qui sont positifs. Ça, c'est sûr qu'on n'en cachera aucun. Et c'est ça qui est la politique qui nous est demandée de suivre parce que à partir du moment où on fait des investigations, la plupart du temps, ce sont des cas dont on se doute qu'ils ne seront pas positifs, mais on veut être prudent. Et là, à partir du moment où on dirait « oui, on en a un en ce moment à tel endroit », ça pourrait générer de l'anxiété, alors que nous, on le fait par mesure préventive. Alors, dans l'ensemble, ce que je vous dis, c'est oui, il y a des voyageurs partout, dans toutes les régions du Québec qui reviennent et on doit prendre des mesures à l'occasion.
Ouais. Bien. Bon, lorsque quelqu'un revient de voyage, comme vous le mentionnez, il y a beaucoup de questionnements par rapport au comment ça se passe véritablement aux douanes, dans les aéroports, et on a l'impression que le système, finalement, est extrêmement poreux. En tant que directeur de la santé publique, comment analysez-vous la situation? Parce que lorsqu'on dit que des gens rentrés au pays... Finalement, une fois chez eux, ont découvert qu'ils avaient certains symptômes et qu'ils se sont mis volontairement en isolement. Ça veut dire qu'aux douanes, on n'a pas trop surveillé ça. Je peux comprendre, là. Avant que vous me répondiez, là, je peux comprendre que si tu passes aux douanes, tu tousses pas, tu fais pas de fièvre, t'as aucun symptôme, c'est certain qu'on te mettra pas en quarantaine. Mais quand même, on a critiqué le système des douanes ou de l'entrée au Canada, là.
Je vous dirais que la situation dans les premières semaines était plus facile parce que le virus, il était surtout situé dans un ou deux ou trois pays. Alors, à partir du moment où les gens revenaient de la Chine continentale, par exemple, ou de la Corée du Sud, ben là, ou de l'Iran, on est capable de dire, ben là, sur le trajet de vol que vous avez suivi, vous arrivez de ces pays-là et à partir de maintenant, on va vous poser des questions plus serrées. Mais là, à partir du moment où le virus s'est répandu dans une cinquantaine, une soixantaine de pays, et que les gens prennent des itinéraires qui font non seulement pas juste des vols directs, mais des vols avec des escales, là, ça devient extrêmement difficile. Et c'est là où, vous avez raison, le système, le filet a des mailles assez larges.
Oui, donc ça pourrait faire en sorte qu'éventuellement, il y ait plus d'entrées au pays de ce virus-là avec des gens qui arrivent d'un peu partout dans le monde, étant donné que l'étalement, si on veut, du virus est en progression.
C'est plausible, en effet.
Ouais. Bon, ce virus-là, je vous donne un exemple, là, c'est un exemple personnel, là. Moi, je suis pas vacciné contre l'influenza, OK? J'ai jamais été vacciné contre l'influenza, j'ai 62 ans, peut-être que je devrais. Est-ce que je suis plus à risque avec le coronavirus qu'avec l'influenza, étant donné que, de toute manière, je suis pas vacciné?
Bon, il y a plusieurs sous-questions à votre question. La première, c'est que Pour le coronavirus, là, je vais être définitif. Je vais vous dire qu'en ce moment, vous êtes nettement moins à risque parce qu'on a juste 2 cas au Québec. Et pour la grippe, on en a 2000 juste pour le Bas-Saint-Laurent. Ouais. Alors, je vous le dis, ça circule beaucoup en ce moment. Ce qui donne des symptômes, c'est la grippe. Les deux problèmes de santé se ressemblent, c'est-à-dire que les gens qui vont en souffrir vont en général faire une maladie qui est somme toute qu'on est capable de surmonter, sauf à partir du moment où on a des problèmes de santé, et ça touche sensiblement les mêmes populations, c'est-à-dire les personnes plus âgées qui auraient des maladies chroniques, souvent des maladies respiratoires, des maladies cardiaques. C'est là où faire la grippe ou attraper le coronavirus, dans les deux cas, c'est là où les conséquences sont les plus fâcheuses.
Mais pour répondre à ma question, étant donné que je suis pas vacciné pour l'influenza, mettons qu'au lieu d'attraper l'influenza, j'attraperais le coronavirus, est-ce que ça frappe plus fort?
Là, on regarde les données parce qu'on commence à connaître un peu mieux le coronavirus parce qu'il n'est apparu que depuis le mois de décembre.
Ouais.
Je vous dirais qu'à première vue, on regarde deux choses. Est-ce que le virus est plus contagieux et est-ce qu'il cause plus de décès? Et dans les deux cas, on dirait un peu plus oui. C'est-à-dire que le coronavirus semble un peu plus contagieux que le virus de la grippe. Et pour les gens qui l'attrapent, il donne des conséquences fâcheuses un peu plus souvent.
Ouais.
Je vous donne un exemple. 1000 personnes vont faire la grippe saisonnière et en général, on considère que malheureusement, une personne parmi ces 1000 va en décéder.
Ouais.
Pour le coronavirus, on estime pour le moment que si 1000 personnes font le coronavirus, il y aurait une vingtaine de décès. Donc, on voit que c'est un peu plus sévère.
Oui, c'est un peu plus virulent. L'affaire des masques maintenant, Dr Leduc, l'affaire des masques. Moi, est-ce que je suis correct dans mon affaire si j'ai compris que porter un masque, ça m'empêche, si je tousse, de propager mes microbes, mais que ça n'a aucun effet pour que moi, je n'attrape pas les microbes des autres?
C'est tout à fait exact. Vous avez tout à fait raison. Puis je vais vous donner un exemple. Hier, encore pas plus tard qu'hier, hein, je roulais en voiture, j'ai croisé un jeune homme d'une vingtaine d'années seul dans sa voiture avec un masque. Totalement inutile. C'est un gaspillage de masques, là, parce qu'on s'entend, le masque, comme vous l'avez bien dit, il sert à protéger les autres lorsqu'on est soi-même infecté, lorsqu'on tousse, puis qu'on veut pas le donner à nos proches. Quand on arrive à l'urgence, on donne un masque aux gens qui ont de la toux, de la fièvre, pour pas qu'ils contaminent les autres dans la salle d'attente. Mais on donne pas des masques aux 30 personnes dans la salle d'attente, on le comprend. Donc, le masque comme tel, il vise à empêcher d'infecter les gens. Et dans le cas des travailleurs de la santé, on le porte quand on fait des procédures. Donc, on le porte pas toute la journée. On le porte uniquement pendant qu'on fait les procédures, puis pendant qu'on travaille avec nos deux mains sur ces procédures-là.
Ouais, ouais.
Mais on se met pas les mains dans le visage. Alors, c'est ça qui fait en sorte que, oui, c'est vrai, les gens ont pas... Il faut ramener les messages, les masques, malheureusement, là, c'est une fausse protection, c'est une fausse impression. Et là, ben malheureusement, à un moment donné, on risque d'en manquer si tout le monde les utilise à mauvais escient.
Mais en même temps, Dr Leduc, les gens, ils sont pas fous. Ils regardent lorsque des personnes interviennent auprès de porteurs du coronavirus ou encore, comme on voit dans d'autres pays, là, pour passer quasiment l'insecticide, là, appelons ça de même pour que le monde comprenne, ils sont masqués, eux autres. Pourquoi ils se masquent, eux autres, si on n'a pas besoin d'être masqués?
Mais encore une fois, dans le milieu de la santé, nous, on va se masquer pendant quelques minutes ou quelques heures si c'est une chirurgie, là, mais ça dure un temps et ça fait en sorte qu'on se met pas les mains dans le visage.
Non, mais je veux dire, le masque a l'air à faire partie du kit, c'est-à-dire de ce qu'on se met sur la tête, les gants dans les mains, l'uniforme qui a de l'air à être scellé, attaché, qu'il y a rien qui passe là, et le masque fait partie du kit. Pourquoi il fait partie du kit si on n'est pas entre gens, si on n'est pas porteur du coronavirus?
Honnêtement, je pense que c'est une impression de vouloir se protéger et ultimement, c'est inefficace. Porter un masque toute une journée, c'est finir par se mettre les mains dans le visage pour le replacer, toucher avec nos doigts des sécrétions qui sont autour de notre nez, notre bouche, qu'on n'aurait pas fait si on n'avait pas de masque. Alors, c'est pour ça qu'on dit...
Ouais.
C'est pas utile dans ces conditions.
Ouais. Je vous pose la question, Dr Leduc, puis vous n'êtes pas obligé de me répondre si vous ne connaissez pas la réponse, mais est-ce qu'il existe des masques sur le marché qui pourraient permettre de ne pas laisser passer le virus?
Encore une fois, un masque peut être efficace si on le porte pendant une heure. Mais si on le porte toute la journée, on va finir par ne pas rencontrer ces conditions d'utilisation. Okay. Donc, c'est pour ça que nos masques en milieu de la santé sont... En plus, c'est qu'on les utilise chez des gens à qui on les a fait ce qu'on appelle tester avant pour qu'ils soient appropriés au visage de chacun des intervenants. Alors, ça, on fait pas ça dans le public. Ça. Alors, il y a aucun masque qui va bien... s'imprégner au visage des gens si on l'a pas bien ajusté, et encore moins si on le porte plus d'une heure, plus de 2 heures, là, à partir de ce moment-là.
Question rapide, réponse rapide. Des chambres d'isolement, on a ça autant à Rivière-du-Loup qu'à Rimouski?
Oui, des chambres... Il y a différentes sortes de chambres d'isolement. Celles dont on fait usage le plus dans ce genre de situation-là, c'est ce qu'on appelle la pression négative, c'est-à-dire qu'on essaie de s'assurer que l'aération ne soit pas recirculée. Donc, c'est pour ça qu'on en a dans chacun de nos centres hospitaliers. Et si jamais on en avait besoin de davantage, mais là, à ce moment-là, on a d'autres procédures qui visent là, à isoler certaines chambres, à les utiliser uniquement pour certaines clientèles.
D'accord. Ouais. Donc si on mettons qu'on se présente à l'hôpital de Rivière-du-Loup ou à l'hôpital de Rimouski, puis qu'on est sûr d'une chose, là, c'est qu'on a la grippe, puis ça va pas bien, là, parce que... on nous envoie pas à Québec, on nous envoie pas à Montréal. On va rester à Rivière-du-Loup.
Absolument.
On prend charge en place.
Seulement dans les quelques rares cas où là, il y aurait vraiment des complications vraiment importantes qu'on peut avoir besoin. C'est pour ça qu'il y a 4 centres qui ont été désignés au Québec, mais jusqu'à maintenant, on n'aurait pas besoin de les envoyer.
Dernière question, les analyses pour confirmer que quelqu'un a le coronavirus, est-ce que ça se fait localement ou est-ce qu'on est obligé d'envoyer ça quelque part ailleurs, au Québec ou dans une autre province?
Présentement, au Québec, on les envoie tous à un endroit au Québec. C'est le laboratoire de santé publique du Québec qui fait les analyses. Quand un résultat est négatif, ça nous dit que c'est négatif. Si jamais il y avait un résultat qui est positif, c'est arrivé en ce moment 2 fois au Québec, là, il faut le faire contre-vérifié par le laboratoire à Winnipeg pour qu'il nous confirme. Mais dans 99% des cas, ce qui est établi au Québec va être la vraie valeur aussi. Donc, c'est pour ça que si jamais on a un test à faire dans la région, on fait le prélèvement, on l'envoie au laboratoire de santé publique du Québec dans la région de Montréal. Et puis, en moins de 48 heures, pour ceux qui sont autour de Montréal, là, ça va être dans la même journée. Pour nous, ça va être d'une journée à 2 jours avant d'avoir le résultat, considérant les transports des prélèvements.
Sylvain Leduc, merci.